C'est une affaire qui a fait énormément de bruit aujourd'hui. On a une suspicion de discrimination raciale pour des élèves de l'école juive de Yavne, aux oraux du bac, on croit rêver parce qu'il s'agit d'enfants. En fait, des notes catastrophiques ont été obtenues par ces élèves qui, de manière générale, sont plutôt dans l'excellence. Yavne est connu pour être peut-être même trop sélectif. Donc, c'est des élèves qui ne peuvent pas avoir deux ou trois au baccalauréat, surtout si, comme par hasard, il n'y a que eux. C'est-à-dire que les élèves de Yavne. Et donc, ça a fait un énorme scandale, au point que, très rapidement, dès ce matin, la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, a demandé l'ouverture d'une enquête et toute une série de personnalités ont réagi en demandant effectivement des explications. Parmi ces personnalités, on a Caroline Yadan, qui est en ligne avec nous. Bonsoir, Caroline.
Bonsoir, Bernard.
Caroline, vous êtes, au demeurant, la nouvelle députée des Français de l'étranger dans la 8e circonscription, c'est-à-dire celle qui contient notamment Israël, donc ce qui nous permet au passage de vous féliciter, on va en parler dans une minute, mais il se trouve que vous, c'est un quartier que vous connaissez bien, puisque vous étiez auparavant élu de ce secteur de la ville de Paris, et que vous avez vous aussi réagi très vite. Alors pour l'instant, on parle de suspicion, mais c'est vrai que l'émotion ne peut être que énorme.
Oui, bien sûr. Alors, on parle surtout d'une enquête administrative qui vient d'être ouverte. J'ai saisi immédiatement lorsque j'ai été alertée hier soir par plusieurs sources différentes. J'ai saisi immédiatement la ministre de l'Éducation qui, elle, s'est saisie immédiatement son ministère de cette question pour immédiatement donc enclencher une enquête administrative qui permettra de clarifier et pour savoir si oui ou non il y a eu une discrimination en fonction de l'origine juive des élèves. Il est évident, alors moi je par principe je reste toujours prudente et je vais attendre, comme nous tous, les conclusions de cette enquête administrative. Mais il est bien évident que si les faits s'avèrent exacts, nous serons en présence d'une affaire absolument gravissime, qu'il faudra prendre des sanctions exemplaires et que c'est d'ailleurs ce qu'a tweeté le ministre. Donc, si les faits étaient avérés, eh bien, des sanctions immédiates seraient prises. Attendons.
Alors, il s'agit d'enfants, hein. Donc l'émotion est immédiate. Et d'un autre côté, très franchement, on va voir l'enquête. Ça me semblerait vraiment énorme. Hein. Ça serait qu'un professeur dans un concours, qu'un candidat à un poste pour un travail que se fasse saquer, comme on dit, on l'a vu, on le sait, discrimination à l'embauche, etc. Le gars qui dirige la succursale de je ne sais quelle banque, il dit non, moi je veux pas de juifs, ça peut arriver. Saquer comme ça une trentaine d'élèves juifs de 18 ans, on va voir. Caroline Yadan, vous êtes, donc là je vous ai parlé de vos anciens amours, la ville de Paris, mais vous êtes députée... on peut le dire de manière un peu inattendue. Les gens avaient déjà fait tous les pronostics en disant « Mais Meir Habib est imbattable ». D'après vous, comment vous expliquez votre victoire ?
Écoutez, je l'explique par plusieurs facteurs. Effectivement, lorsqu'on m'a proposé cette circonscription, alors que ça n'était pas du tout prévu, puisque je devais repartir dans la circonscription de Paris avec Stanislas Guérini, et lorsqu'on m'a proposé cette circonscription, on m'a dit la chose suivante, eh bien, s'il y a une candidate qui peut battre Meir Habib, c'est toi. Pourquoi ? Parce que d'abord, j'ai un bilan. J'ai un bilan depuis 2 ans que je suis députée et puis depuis très très longtemps, près de 40 ans que je suis militante et que je lutte de manière acharnée contre l'antisémitisme et pour la légitimité de l'État d'Israël. J'ai un bilan que j'ai défendu notamment en Israël où j'ai expliqué, alors c'est vrai que j'avais un déficit de notoriété par rapport à la France, mais c'est vrai que aussi que les Juifs français ont contribué via leur réseau, via leur famille à parler de moi sur place, et ce déficit de notoriété, je l'ai comblé d'abord en présentant ce que j'étais, et en présentant ce que j'avais fait, et également sur un argument qui me semblait assez imparable, c'est que je fédère autour de moi, je rassemble autour de moi, je forme autour de moi des centaines de députés qui ont pu, durant ces 2 ans, eh bien, participer aux actions que j'ai menées, participer aux délégations en Israël, participé au texte, co-signé des courriers, co-signé des textes de loi, des propositions de résolution que j'avais rédigées. Donc c'était à la fois, c'est à la fois du travail, c'est à la fois de l'authenticité, de la sincérité dans mon engagement, une manière aussi de présenter cet engagement. C'est Christophe Barbier en fait qui m'a trouvé mon slogan de campagne qui est la fermeté sans outrance. Donc une manière
qu'est-ce
de
qu'il
convaincre.
A dit qu'est-ce qu'il a dit, Christophe?
Il a dit, en fin de compte, et c'était ma première interview de lancement de campagne, ouais. Il m'a dit, mais en fait, vous êtes la candidate de la fermeté sur l'outrance. Et je lui ai dit, mais en fait, c'est exactement ça, merci. Et c'est devenu mon slogan de campagne. Voilà, tout un tas de facteurs. Et puis, bien sûr, je me suis rendue sur place. Donc, je me suis rendue en Israël, mais je me suis aussi rendue dans les autres pays de la circonscription qui ne voyaient jamais, qui n'ont jamais vu leur député Meir Habib, puisque Meir Habib se considérait comme le député du seul Israël, mais la circonscription, vous l'avez dit, vous l'avez.
Il y a la Turquie, il y a la Grèce, et d'ailleurs.
Mais il y a l'Italie, il y a la Grèce, il y a la Turquie, il y a Chypre, il y a Malte, il y a le Vatican, il y a Saint-Marin. Donc il y a neuf pays en tout, et il était très important pour moi d'aller sur place et de me présenter aussi avec mon autre casquette, donc pas seulement antisémitisme, mais pas seulement défense d'Israël, mais aussi justice sociale et aussi cette casquette qui est d'avocat en droit de la famille, et donc tous les textes que j'avais portés en ce domaine, notamment sur les violences faites aux femmes, notamment sur la justice patrimoniale, sur la médiation, etc. Et je pense que ça a joué, y compris en Israël, où Meir Habib a fait son plus mauvais score depuis qu'il est député, depuis qu'il se présente. Il dit à tout le monde, enfin il écrit partout qu'il aurait fait 88% des voix en Israël, il n'en est rien, il se base uniquement sur les votes à l'urne qui ne représentent que 10% des votes. En réalité, j'ai fait quasi 30% des voix en Israël, malgré ma casquette, malgré mon étiquette Macron, parce que j'ai réussi à convaincre, parce que ça a été une par une, et parce que les gens qui me connaissent ont fait aussi passer le message que je n'étais pas une candidate sortie de nulle part, mais que derrière moi, il y avait la possibilité pour les Juifs de France d'être défendus comme jamais ils n'ont été défendus, avec conviction, mais surtout en fédérant autour d'eux.
Alors, il y a deux choses par rapport à la participation en Israël. D'abord, la première, c'est que ce que vous dites est vérifiable dans les chiffres. Vous étiez élu à plus de 52%, c'est-à-dire que c'est faux de dire que vous avez été élu à seulement quelques centaines de voix, puisque c'est plus de 2000 voix.
Exactement.
Donc, c'est une vraie victoire. Une victoire oui. Légitime, crédible, indiscutable. La deuxième chose, c'est que franchement, Meir Habib reste quand même très populaire à Ashdod. À Natania, il a fait 85% des voix à Jérusalem. Et c'est vrai que la bagarre a dû être âpre sur place en Israël, parce que, non, on ne peut pas dire que Meir Habib ne reste pas très populaire en Israël, parmi les Français.
Loin de moi l'idée de dire ça, et d'ailleurs je rends hommage, malgré les coups bas, malgré les calomnies, malgré les mensonges proférés à mon endroit au moment du deuxième tour. Mais je rends hommage évidemment au travail exceptionnel de Meir Habib, à son courage, à ce qu'il a fait durant 12 ans. Et en réalité, l'attachement à Meir Habib est presque affectif en Israël et sur les villes que vous avez citées, à Jérusalem, à Ashdod, à Natania. Voilà, et ça je peux le comprendre. C'est la raison pour laquelle il était très très difficile pour moi de me faire une place en 10 jours. En seulement 10 jours, j'ai récolté près de 3500 voix, ce qui est en fait énorme, hein, parce que j'étais quasi totalement inconnue. Donc, bien évidemment qu'il y a eu un vote massif, notamment à l'urne pour Meir Habib et sur les villes en question. Mais mon but aujourd'hui, mon objectif, c'est de me faire connaître, surtout ce que je vais faire. Parce que je suis une femme qui fait, je ne suis pas simplement une femme de parole, une femme qui dit, mais lorsque je dis quelque chose, je le fais. Et j'ai notamment dans le tiroir deux projets qui me tiennent à cœur. Le premier, c'est de faire en sorte que la résolution, le projet de résolution que j'avais rédigé et c'est co-signé par près de 90 députés, d'une résolution visant à condamner l'éducation à la haine des enfants palestiniens soit adoptée à l'Assemblée nationale. Et le deuxième texte sur lequel je veux absolument travailler, j'avais commencé à travailler dessus avec Aurore Berger, qui est ministre de l'égalité et des discriminations, sur l'intégration dans la loi de la définition de l'IRA de l'antisémitisme, et notamment de l'appel à sa destruction, de l'appel à la destruction d'Israël et sa nazification, que moi je voudrais voir punie par la loi. Donc ça va être un vrai combat, j'ai l'intention de le mener et j'irai évidemment jusqu'au bout. Voilà.
Bah, jusqu'au bout, ça risque d'être dans un an. Hein.
Alors on verra. on verra. Voilà. Franchement, je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir, y compris en termes de coalition, mais je pense que pour le coup, les Républicains ont une responsabilité pour l'avenir énorme. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à faire une coalition avec eux, et Dieu sait si on leur a tendu la main, si on continue à leur tendre la main pour éviter un gouvernement d'extrême-gauche, un gouvernement du nouveau front populaire qui ne manquera pas d'arriver si jamais les LR ne nous tendent pas la main aussi, moi je crains le pire. Alors évidemment, il y aura des motions de censure, mais rien ne dit que le RN, parce que peut-être qu'ils voudront en définitive que Macron démissionne, voteront cette motion de censure. Et vraiment, je le dis très très fort ici, les LR, ils n'arrivent pas à s'entendre avec nous et à prendre la main que l'on tend, la majorité présidentielle, eh bien, ils porteront une très très lourde responsabilité sur la formation éventuellement d'un gouvernement d'extrême-gauche demain. C'est dit, et je ne comprends pas que tel ne soit pas le cas, comme je ne comprends pas de l'autre côté que la gauche, on va dire Hollande, donc la gauche qu'on peut appeler laïque, républicaine, modérée, qui s'est alliée avec le pire, continue à rester dans cette alliance contre nature, avec ces députés.
Caroline, je vous inviterai une deuxième fois, parce que ça, c'est le deuxième étage de la fusée. Quel gouvernement qui est... Parce que j'avais envie... Mais le problème, c'est qu'on n'aura pas le temps de le faire ce soir. Et vous êtes arrivé au bout de votre logique. Vous convoquez des élections, vous, le chef de l'État. Et bien maintenant, après, il y a des camps, et il y a des gens qui ne veulent pas quitter leur camp. Si... les socialistes se sentent proches du Front Populaire, vous allez avoir du mal. Mais je vous invite sur Radio Shalom à en parler dans les jours qui viennent, lorsqu'on aura peut-être plus d'informations d'ailleurs sur la formation.
Avec plaisir, et je serai en Israël dimanche pour le 14 juillet.
Ben très bien, alors on fera l'interview d'Israël. Caroline Yadan, la nouvelle députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger, donc la circonscription qui comprend notamment Israël. Merci d'avoir été l'invité de Radio Shalom. Bonsoir à vous.
Merci à vous, au revoir.